Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Arthur.
RTL.
C'est pas Versailles ici.
C'est pas Versailles ici.
La curiosité.
Arthur.
C'est pas Versailles ici.
Est un vilain défaut.
Je me trouve ici dans l'appartement de l'impératrice à Grand Trianon, dans son salon des glaces. Ce salon est le plus beau de l'aile sud. Il a conservé son décor, Louis XIV, et a été entièrement remeublé par Napoléon.
C'est pas Versailles!
Bonjour Fabien Opperman.
Bonjour.
Bienvenue dans notre château à nous.
Mais oui, vous êtes, il est tout rouge, vous êtes historien, un grand connaisseur d'ailleurs de l'histoire du château de Versailles, et ça vous a donné envie d'enquêter sur les châteaux de la République. Et d'ailleurs, il y en a un qu'on appelle le pavillon de la lanterne et qui est dans le parc du château de Versailles. On y sera, on va pousser la porte, la grille dans quelques instants. Ce sont des lieux qui alimentent beaucoup de fantasmes. On va commencer par faire une petite liste. Quels sont les plus connus ?
Alors, il y en a plusieurs, évidemment. Depuis 2007, on a beaucoup parlé du pavillon de la Lanterne, résidence secondaire du président de la République désormais, le fort de Brégançon. Mm-hmm. Il y avait avant le château de Rambouillet, un château très ancien, historique, qui abritait les rois de France, François Ier, Louis XVI. On connaît moins certains petits châteaux, le château de Champs-sur-Marne à l'est de Paris, le château de Visille près de Grenoble, le pavillon de chasse de Marly-le-Roi, tous ces lieux, toutes ces résidences ont abrité les présidents de la République depuis près de 150 ans.
Et donc ce pavillon de la Lanterne, alors on a dit où il se trouve, dans le parc du château de Versailles, c'est ça, à la limite, à la lisière.
À la lisière du parc de Versailles, c'est un lieu assez paradisiaque, c'est au cœur du parc de Versailles, mais clos de murs, de hauts murs, ça fait un petit parc de 3 à 4 hectares, une piscine, un terrain de tennis depuis une trentaine d'années.
C'est moderne à l'intérieur ?
Alors c'est un pavillon du 18e siècle, ouais. Fin 18e siècle, donc avec une décoration 18e siècle, mais c'est un pavillon à taille humaine. On peut s'y sentir chez soi, c'est pas les ors de la République, c'est pas immense, il y a quelques chambres, un salon, une salle à manger, donc on peut s'y sentir chez soi sans être écrasé par le poids du décor.
Est-ce que c'est l'endroit où aiment partir Emmanuel Macron et Brigitte Macron le week-end par exemple ?
Emmanuel et Brigitte Macron, comme leurs prédécesseurs, ils vont très régulièrement en effet.
Alors vous nous l'avez dit, la Lanterne, le pavillon de la Lanterne a changé de destin en 2007. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors en 1959, le pavillon de la Lanterne est revenu dans le giron de l'État. Il était loué précédemment à des particuliers. Et en 1959, on a décidé de l'affecter au Premier ministre. C'était la résidence de week-end des Premiers ministres de 1959 à 2007. Et en 2007, au moment de son élection, Nicolas Sarkozy a fait savoir au Premier ministre sortant, Dominique de Villepin, qu'il souhaitait récupérer le pavillon de la Lanterne. Il a souhaité le récupérer avant même la passation de pouvoir, donc avant même d'entrer à l'Élysée. Nicolas Sarkozy s'est installé à la Lanterne.
Alors Fabien Opperman, l'autre résidence présidentielle, c'est le fort de Brégançon. Et là, c'est vraiment une autre ambiance, hein, c'est méditerranée, c'est des lys, les cigales et compagnie. Il est situé où exactement ce fort de Brégançon ? Alors, à quoi il ressemble et qu'est-ce qu'on voit du fort ?
Le fort de Brégançon, c'est donc au bord de la Méditerranée, dans le Var. C'est un lieu également paradisiaque, sur une espèce de piton rocheux, une avancée dans la mer. On a une vue à 360 degrés sur la Méditerranée, sur les bateaux qui croisent au large, sur la côte. C'est vraiment un très beau lieu. Et là encore, un lieu qui est à taille humaine. C'est pas immense.
Ça veut dire quoi ? Combien de pièces, combien de chambres ? Faites
tout. Tout est relatif, bien sûr.
Alors, tout est relatif, naturellement, mais c'est il doit y avoir en tout une dizaine de chambres, y compris les chambres pour le personnel. Il y a une petite résidence sur le côté pour les militaires qui gardent le fort et qui protègent le président de la République. Mais à nouveau, c'est un lieu à taille humaine. La République a abandonné les châteaux Rambouillet, Visille, qui étaient des énormes châteaux affectés au président jusque dans les années 60 pour Visille. Et les années 2000 pour Rambouillet. Aujourd'hui, on a besoin de quelque chose de plus intime.
Et peut-être aussi parce que ça devient de plus en plus compliqué. Enfin, il faut assumer le fait, pour un président de la République, de profiter d'un palais comme celui-là et même d'y faire des travaux. L'histoire de la piscine d'Emmanuel Macron, par exemple, ça a créé une petite polémique, mais ce n'était pas le premier à avoir eu l'idée.
Non. Brégançon a un problème, c'est que c'est très exposé au regard. Et donc, lorsque les présidents de la République souhaitaient se baigner dans la mer, eh bien, on se baignait devant les paparazzi, on se baignait éventuellement devant les badauds qui étaient sur les bateaux au large. Donc, c'était très, très exposé.
Ouais, et justement, on va raconter maintenant quelques histoires qui concernent Jacques Chirac à Brégançon. Elles sont savoureuses. Mais d'abord, extrait d'un reportage diffusé dans un journal télévisé, je crois que c'était sur Antenne 2 à l'époque. C'est un passage obligé pour le président et pour les médias, le président en vacances.
Vue imprenable sur le fort de Brégançon, havre de tranquillité pour président en vacances. Loin des regards, c'est une autre affaire. C'est vrai qu'il y a les détours obligés quasi officiels. Jacques Chirac s'y est prêté une fois le week-end dernier en venant se mêler à la petite foule massée autour de l'église de Bormes-les-Mimosas à l'heure des vêpres. Joie des touristes, tout surpris d'approcher le chef de l'État. Aubaine pour les photographes, on ne croise pas tous les jours un président en vacances.
Et c'est vrai qu'on ne croise pas tous les jours un président en vacances, un président qui se met à la fenêtre nu, parce qu'il y a une histoire comme ça où Jacques Chirac est tellement à l'aise à Brégançon, on ne peut pas lui en vouloir. Oui, il paraît qu'on l'a vu nu. Alors, au balcon de Brégançon.
C'est arrivé, en effet. Jacques Chirac observait le large depuis la fenêtre de sa chambre.
Tranquille.
On l'a vu d'abord en sous-vêtements, puis ensuite nu. Le problème, c'est comme je le disais, Brégançon est très exposé. Oui. Les paparazzi croisent sur des bateaux au large et avec des téléobjectifs, on a pris le président de la République nu.
Mais pourquoi on ne les a pas vus, ces photos ?
Qu'est-ce qu'elles sont de
Eh bien, parce que l'ensemble des rédactions a jugé, à juste titre probablement, que ça n'était pas des photos dignes d'être publiées parce que on n'a pas besoin dans les médias de voir le président de la République nu.
Oui, pardon, mais ça me fait beaucoup rire. Jacques Chirac qui a aussi été, alors je ne sais pas si c'est victime un peu consentante d'une paparazzade à Brégançon, sur le côté grand-père, c'est ça, c'était les premières photos ou certaines photos de Chirac avec son petit-fils.
Alors, les premières photos de Jacques Chirac avec son petit-fils datent de 1996, je crois, et donc le bébé est vraiment tout petit. Mmh. En revanche, trois ou quatre ans plus tard, en 2000, il y a une sorte de paparazzade organisée. Jacques Chirac subit la cohabitation, Lionel Jospin est Premier ministre, et donc il faut faire remonter Jacques Chirac dans le cœur des Français. Et donc il y a une sorte de séance photo, plus ou moins volée, qui est en fait organisée par l'entourage du président de la République, Jacques Chirac, qui se promène sur la plage de Brégançon avec son petit-fils.
Une piscine dans le fort de Brégançon, le projet est en cours d'étude, selon l'Élysée.
RTL. Finalement, Emmanuel Macron est en train de réaliser ce que beaucoup de ses prédécesseurs on peut être rêvé.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mais avant cela, il faut l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Car Brégançon est un lieu protégé.
On fait la tournée des résidences comme Brégançon ou des châteaux de la République avec notre invité, l'historien Fabien Opperman. On va découvrir maintenant un château qui a une histoire absolument incroyable, mais il n'est pas forcément connu du grand public. Son nom quand même a pas mal traîné dans l'actualité, mais vous allez bien nous raconter son histoire. C'est Souzy-la-Briche. On est dans quelle région ?
Souzy-la-Briche, c'est un tout petit village qui est à une cinquantaine ou soixantaine de kilomètres au sud de Paris, dans l'Essonne. Il y a au cœur du village un très grand domaine de plusieurs centaines d'hectares, pareil, clos de murs, et qui abrite un manoir qui est pas extraordinaire, pareil, à taille humaine, mais qui a on va dire la curiosité d'être la résidence du président de la République depuis les années 70.
Et il appartient, oui, alors depuis quand il appartient à l'État en fait ? Les années 70 ?
Alors il a été donné en plusieurs fois, alors c'est assez compliqué, mais il a été donné par un couple qui a reconstitué un domaine un petit peu à l'ancienne, avec un manoir, une petite chapelle, des terres, des bois, un parc. Et à la fin des années 60, ce couple, qui n'a pas d'enfant, décide de donner ce domaine, ce manoir de Souzy-la-Briche, à l'État. D'abord, le projet, c'était que ce soit la résidence du Premier ministre, et puis finalement, ça va devenir la résidence du président de la République.
Oui, parce qu'ils avaient mis une condition dans leur testament, les époux Simon, c'est ça ?
Alors, les époux Simon, il y a une condition et quelque chose qui pourrait encore arriver, c'est que si jamais les États-Unis d'Europe devaient se constituer, et qu'il y avait un président des États-Unis d'Europe, eh bien, il faudrait que ce manoir de Souzy-la-Briche soit la résidence du président des États-Unis d'Europe.
C'est drôle, on verra bien si ça arrive. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui aurait pu en profiter le plus. Que fait son directeur de cabinet, Philippe Sauzet, que vous avez rencontré pour votre livre Dans les châteaux de la République, publié chez Talendier?
Eh bien, Valéry Giscard d'Estaing se trouve un peu démuni lorsqu'il reçoit cette donation, parce qu'en réalité, le président de la République a déjà le château de Rambouillet, il a déjà le pavillon de chasse de Marly-le-Roi, il y a déjà le fort de Brégançon. Donc qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de Souzy-la-Briche? Donc le chef de cabinet, Philippe Sauzet, se rend sur place, se rend compte qu'il n'y a finalement pas grand-chose, pas beaucoup d'intérêt, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de tennis à l'époque... Il y a du mobilier, mais qui n'est pas très intéressant, des œuvres d'art pas très intéressantes. Et donc finalement, Valéry Giscard d'Estaing ne va jamais y mettre les pieds.
Et puis François Mitterrand, Fabien Opperman, va trouver une utilité à ce château de Souzy-la-Briche, à ce manoir. Quelle est-elle?
En 1981, lorsque François Mitterrand est élu, se pose la question de sa deuxième vie, sa vie avec la famille Pinjot. Et donc il y a besoin d'un lieu discret pour abriter sa vie quotidienne avec Anne Pinjot et avec leur fille Mazarine.
Ça veut dire, quand vous dites que se pose la question, c'est-à-dire qu'il pose la question à d'autres personnes à l'Élysée, c'est pas son secret encore juste à lui?
Eh bien, certains membres de son entourage, notamment son directeur de cabinet André Rousselet, sont au courant. Et donc, ils vont chercher parmi les résidences officielles de la République laquelle pourrait convenir pour abriter le week-end le président et cette famille qui est à l'époque cachée du grand public. Ils font un peu le tour, ils vont voir le Grand Trianon qui est beaucoup trop exposé au public. Brégançon est beaucoup trop loin. Marly-le-Roi sert pour les chasses présidentielles. Et finalement, André Rousselet va ressortir le manoir de Souzy-la-Briche de l'oubli en disant mais c'est ici qu'il faut abriter le président de la République et la famille Pinjot.
Et donc il ira souvent?
Alors François Mitterrand visite une première fois à l'été 1980, donc quelques semaines après son élection le manoir, et il dit mais c'est là, c'est formidable, vous me remettez un coup de peinture, un petit coup de frais et ce sera formidable. En fait, les travaux vont durer près d'un an, plus d'un an, et à partir de novembre 1982, la famille Pinjot et François Mitterrand vont y passer quasiment tout leur week-end.
Et François Mitterrand avait l'habitude d'utiliser comme ça les... Parce que ça aussi, ça, bon évidemment, la double vie du président, je pense que ça n'aurait pas pu rester caché aussi longtemps aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec la pression médiatique. Mais au-delà de ça, ce qui ne passerait pas non plus, c'est l'utilisation par le président pour sa famille des résidences officielles. Comme ça, il le faisait souvent.
François Mitterrand a beaucoup utilisé Souzy-la-Briche. Il n'a pas vraiment utilisé les autres. Par exemple, Brégançon, il y est très peu allé. En revanche, il pouvait donner les clés de Brégançon à des membres de sa famille pour y passer les vacances l'été.
Ouais, et ça passerait vraiment pas aujourd'hui.
Pas trop. Et Souzy-la-Briche, il y a encore des histoires à raconter sur cette résidence. C'est un peu la résidence maudite des présidents français. D'ailleurs, vous nous l'avez dit, Nicolas Sarkozy savait... Alors ça, on va le raconter. Il savait pas trop quoi en faire. Mais avant ça, il décide de la proposer à son Premier ministre, François Fillon, à qui il avait pris la lanterne. Est-ce que Fillon va trouver cet endroit sympa?
Il y a un ancien Premier ministre, je crois que c'est Jean-Pierre Raffarin, qui aurait dit à François Fillon en perdant la lanterne, tu as perdu le meilleur du job.
Ah. C'est vrai que Matignon, c'est quand même un job à galère.
Premier ministre, c'est un boulot extrêmement prenant, très fatigant, très ingrat.
Qui s'appelait l'enfer de la République.
Exactement.
C'est comme ça qu'ils avaient appelé Matignon.
Et donc, les premiers ministres pouvaient aller se reposer à la lanterne avec la piscine et le terrain de tennis, le parc de 3-4 hectares. Et en échange, Nicolas Sarkozy lui propose le pavillon de Souzy-la-Briche, qui est beaucoup plus loin de Paris, je disais une cinquantaine, soixantaine de kilomètres, alors que la lanterne est à un quart d'heure de Paris, avec Girofard. Il n'y a pas de piscine à Souzy-la-Briche.
Il n'y a pas de cours de tennis, vous nous avez dit.
Il y a eu un cours de tennis qu'on a aménagé sous François Mitterrand. Mais en revanche, c'est évidemment beaucoup plus loin. Et donc, François Fillon ne va jamais aller à Souzy-la-Briche.
Et il ne va rien avoir en échange? Pas d'autres résidences.
Il va finalement décider d'aller chez lui dans la Sarthe.
Ça commençait bien.
C'est pas plus mal. Et forcément, en vous écoutant depuis tout à l'heure, on se demande mais combien ça coûte.
Monsieur le Président, je suis Bernard Bichon.
Bonjour.
Secrétaire général de l'Élysée.
D'accord. Bon, en fait, t'es un peu le gars du syndic, quoi.
Oui.
D'accord, bah tu vas nous faire visiter alors.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Le grand escalier de l'Élysée.
D'accord. Bonjour. Y a pas d'ascenseur?
Voici le salon doré.
Votre bureau, monsieur le président.
Ah, je peux dire, je serai pas là sourd.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
C'est génial.
Jeff Tuss qui devient président de la République, voilà.
Ah oui, c'est le bon sens français,
tout,
quoi.
Tout arrive dans les tuches numéro 3 et nous, on visite ces châteaux de la République avec l'historien Fabien Opperman. Alors, on a été à Brégançon, le fort de Brégançon, magnifique dans le Var, vu à 360 degrés sur la Méditerranée, le pavillon de la Lanterne, c'est très sympa aussi.
Du coup, on choisit quoi?
C'est en lisière du parc du château de Versailles. Ben, je ne sais pas, j'y suis jamais allé. Faudrait qu'on voit l'intérieur avant de choisir.
Quand même. À la fois, hein.
Le château de Souzy-la-Briche aussi, alors qu'il y a une cinquantaine, soixantaine de kilomètres de Paris dans l'Essonne. Et alors, pendant la pause, là, vous nous racontiez une anecdote personnelle à propos de ce château de Souzy-la-Briche. Laquelle?
Eh bien, Souzy-la-Briche était un domaine évidemment très protégé à l'époque de François Mitterrand. Il l'est encore. Mais à l'époque de François Mitterrand, il y avait ce secret de la deuxième famille qu'il fallait absolument cacher. Ouais. Et François Mitterrand et les services de l'Élysée ont tout fait pour que jamais les journalistes, les paparazzi et même la population de Souzy-la-Briche ne puissent savoir ce qui se passait à Souzy-la-Briche. Et en effet, une nuit... En deux nuits, on a rehaussé l'ensemble du mur de clôture du domaine de 50 cm pour protéger encore mieux les occupants de Souzy-la-Briche.
Domaine qui fait combien d'hectares déjà, vous nous rappelez?
Plusieurs centaines.
Ah d'accord, donc bon. Quand on veut, on peut construire rapidement.
C'est vrai, c'est vrai. On va parler de ce qui fâche un peu, ça coûte cher tout cet entretien de ces châteaux, ces résidences. Donc il y a les travaux, il y a l'entretien, j'imagine qu'il y a du personnel qui vit à demeure peut-être aussi toute l'année?
Alors, j'ai pas les chiffres actuels de coûts d'entretien, même si aujourd'hui ce sont des chiffres qu'on peut aisément trouver. Il y a un parlementaire, René Dosière, qui pendant pas mal d'années s'est soucié de savoir combien justement la présidence de la République coûtait. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de résidences. À l'époque du général de Gaulle, il y en avait 6. Le président de la République avait à sa disposition jusqu'à 6 résidences en 1968. Aujourd'hui, le président de la République en a 2, et qui sont les deux plus petites qui sont restées, Brégançon et le pavillon de la Lanterne. Il y a évidemment du personnel, un peu de personnel qui reste à demeure. Il y a quelques militaires qui protègent évidemment la résidence. Après, si ça n'était pas au président de la République, qu'est-ce qu'on en ferait? Le pavillon de la Lanterne, qui est dans le cœur du parc de Versailles, ne serait pas visité parce qu'il est loin de la gare, il est loin du parking, donc les touristes étrangers n'iraient pas visiter le pavillon de la Lanterne. Il n'y a pas non plus d'intérêt historique. De la même manière, si on le mettait en location ou à des particuliers ou si on le vendait, il y aurait évidemment des protestations parce que on pourrait estimer qu'on brade le patrimoine de l'État. Donc aujourd'hui, c'est affecté au président de la République pour son usage certes personnel. Il y a parfois des usages officiels diplomatiques, on reçoit des chefs d'État ou de gouvernement.
Oui, ce que j'allais vous demander, ça a une importance aussi diplomatique pour la politique française.
Donc ça a une importance aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on en ferait si le président ne l'occupait pas?
Mais est-ce qu'on est les seuls en Europe ou dans le monde, ou est-ce qu'il y a d'autres exemples de résidences comme ça, présidentielles?
Aujourd'hui, et depuis tout au long du XXe et du XXIe siècle, la plupart des dirigeants étrangers disposent d'une, entre guillemets, résidence secondaire. Depuis les années 1940, 1942, je crois, le président américain dispose de Camp David, qui est une espèce de très gros complexe, pas très loin de Washington, où il dispose d'une résidence immense et qui, pour le coup, coûte extrêmement cher en entretien aux contribuables américains.
Et en Europe, il y a des exemples aussi?
Le premier ministre britannique, depuis, je crois, 99 ans, depuis 1921, dispose des Chequers, qui, pareil, est une espèce de grand manoir un peu victorien, pas très loin de Londres, et il y va régulièrement.
Alors, il y a les résidences présidentielles, celle du Premier ministre. Et puis alors, surprise, le ministre des Affaires étrangères, donc le locataire du Quai d'Orsay, peut lui aussi profiter d'une résidence personnelle. Et on est à La Celle-Saint-Cloud. Et on va raconter comment Laurent Fabius a découvert ce château, un peu par hasard.
D'abord, Monsieur le Président de la République, je voudrais beaucoup vous remercier de l'honneur que vous nous faites d'être ici. Je crois que c'est la première fois, d'ailleurs, que vous venez dans cette modeste chaumine, dont je veux, en peu de mots, vous conter l'histoire, l'ayant apprise moi-même seulement au bout de quelques mois de ministère.
Modeste chaumine, bon, il est évidemment, il fait de l'humour. Laurent Fabius, vous l'avez rencontré, Fabien Opperman, pour ce livre publié aux éditions Talendier. Faut peut-être rappeler à quelle époque il est ministre des Affaires étrangères, et donc comment il découvre ce château de La Celle-Saint-Cloud.
Alors, Laurent Fabius est ministre pendant 4 ans, entre 2012 et 2016 à peu près, donc au Quai d'Orsay, et puis le personnel du Quai Quai d'Orsay, très vite lui dit « Monsieur le ministre, il faudrait que vous alliez au château de la Celle-Saint-Cloud ». Et Laurent Fabius dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça, le château de la Celle-Saint-Cloud ?» Et puis un soir, en revenant de Normandie, un dimanche soir, où il passait son week-end probablement chez lui, il dit « On fait un crochet par la Celle-Saint-Cloud ». Et il découvre un soir une espèce de château de la Belle au Bois Dormant, château 18e siècle, un peu sur les collines de la Celle-Saint-Cloud, au-dessus de Paris.
Et, modeste chaumine.
un château qui n'est pas immense, oui. Mais un château extrêmement classique, très symétrique, ouais. et surtout complètement endormi, en assez mauvais état.
Donc il a un coup de cœur, Laurent Fabius ?
Il a un coup de cœur, il se dit surtout que ce château doit pouvoir servir à la politique diplomatique de la France, diplomatique et notamment de la diplomatie culturelle. Laurent Fabius n'habitait pas au Quai d'Orsay, il n'utilisait pas le logement de fonction, mais il se dit que ce château, il faut pouvoir le faire sortir de son oubli.
Comment il va le transformer, Laurent Fabius, ce château de la
Celle-Saint-Cloud ? Une association. Mmh. Et c'est cette association qui va drainer des fonds. C'est par le mécénat, d'abord, qu'on va restaurer les extérieurs et le parc du château, de manière à sécuriser un petit peu le clos et le couvert de ce bâtiment, très joli bâtiment. Et il va surtout faire une animation, notamment sur des journées franco-chinoises, franco-japonaises, franco-mongoles, pour favoriser et animer la vie culturelle, diplomatique.
Et d'ailleurs, pour terminer avec ce château de la Celle-Saint-Cloud, il a joué un rôle dans l'histoire de notre 5e République. Lequel ?
Eh bien, lorsque le général de Gaulle donc, arrive au pouvoir en juin 58, revient au pouvoir, il dit il faut qu'on fasse cette nouvelle constitution de la 5e République. Et il trouve que ceux qui travaillent dessus, Michel Debré en tête, ne travaillent pas assez vite. Il dit un jour à Debré... partez dans un endroit tranquille avec 2-3 personnes, pas plus, parce que sinon on ne travaille pas bien. Vous partez quelques jours, quelques semaines, et vous me sortez la constitution de la 5e République. Et donc Michel Debré, avec 2 ou 3 autres jeunes membres du Conseil d'État, va partir à la Celle-Saint-Cloud. Ils vont rester pendant 2-3 semaines, et ils vont sortir la constitution de la 5e République.
Merci beaucoup Fabien Opperman. Passionnantes histoires à découvrir donc dans ce livre. C'est chez Talendier, Dans les châteaux de la République, le pouvoir à l'abri des regards. Merci,
merci.
À bientôt.
Merci à vous.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.